Jack Unterweger est un bon exemple d'un psychopathe intelligent. Il est devenu un auteur à succès de romans et de pièces de théâtre. Mais les psychopathes sont très manipulateurs. Ils sont extrêmement habiles pour berner les autres.
L'une après l'autre, des prostituées meurent en Europe centrale. Les autorités autrichiennes croient que ces meurtres sont tous l'œuvre d'un seul homme. Ils n'ont malheureusement pas beaucoup d'expérience en matière de tueurs en série. Ils demandent l'aide d'un expert du FBI pour dresser le profil psychologique du meurtrier. Ce dernier découvre que le même tueur a déjà fait des ravages aux États-Unis. Le nombre de ses victimes ne cessera d'augmenter que lorsque le FBI l'aura arrêté. En Autriche, le commerce du sexe est légal. Les prostituées circulent dans les rues et offrent leurs services aux hommes prêts à payer. Au cours des années 80, Heidemarie Hammerer était prostituée à Bregenz. C'était une professionnelle depuis près de 10 ans. Elle avait l'habitude des demandes particulières. Mais le 5 décembre 1990, l'un de ses clients alla trop loin. Le meurtrier s'empressa de rhabiller sa victime, puis il traîna son corps dans une forêt isolée à 15 km de la ville où il l'abandonna. On mettrait plus de 3 semaines avant de constater qu'il y avait eu un crime. Dans la matinée du 31 décembre, un couple de randonneurs découvrit le corps de Hammerer. Bien qu'il soit resté en plein air pendant tout ce temps, il n'était pratiquement pas décomposé à cause du froid. Les autorités autrichiennes déterminèrent que Hammerer avait été étranglé avec ses propres banylons. Elle avait sans doute été ligotée car il y avait des marques sur ses poignets. Lors de l'autopsie, on ne découvrit aucun fluide séminal sur son corps. On trouva cependant des fibres qui ne provenaient pas de ses vêtements. Elle n'était que la première victime du tueur. Au cours des mois qui suivirent, 3 autres prostituées de différentes régions d'Autriche connurent le même sort qu'elle. Brunhilde Masser fut retrouvée dans le lit d'un cours d'eau près de Graz. Le corps d'Elfriede Schrempf, également de Graz, se trouvait dans une forêt avoisinante. Près de Vienne, Sylvia Zagler fut retrouvée dans un bosquet. Ces femmes avaient toutes été retrouvées le corps contusionné. Elles avaient été étranglées à l'aide de leurs banylons et laissées partiellement nues. Elles gisaient face contre terre dans des terrains boisés. La population autrichienne était en état de choc. Le 4 avril 1991, les autorités réunirent les enquêteurs les plus expérimentés pour tenter de résoudre ces meurtres. Les ressemblances entre les cas laissaient croire qu'une seule personne était responsable. Il s'agissait pour l'Autriche du premier cas de tueur en série. Les policiers n'avaient aucune expérience avec ce type de criminel. Ernst Geiger, l'un des détectives les plus réputés du pays, fut assigné à la coordination de la chasse à l'homme.
Nous n'avions aucune piste intéressante. Tout menait à des cul-de-sac. Nous ne disposions d'aucun suspect non plus.
L'enquête profita d'un premier coup de chance lorsqu'un policier retraité prit connaissance des meurtres dans un quotidien de Salzbourg. Ces cas ressemblaient étrangement à une enquête qu'il avait résolue en 1974. le détective Geiger reçut un appel téléphonique de cet ex-policier. 15 ans plus tôt, une jeune femme avait été étranglée avec un de ses sous-vêtements et on l'avait abandonnée dans les bois exactement comme les victimes récentes. Le meurtrier avait été arrêté et condamné, mais on l'avait remis en liberté conditionnelle depuis peu. Le détective Geiger prit en note le nom de l'ex-détenu, Johann Jack Unterweger.
Jack Unterweger avait été remis en liberté conditionnelle après 15 ans d'incarcération pour le meurtre d'une jeune femme. Au cours de son séjour en prison, il était devenu un écrivain de renom.
Se pouvait-il que cet auteur à succès fût également un tueur en série ? Geiger et son équipe examinèrent les antécédents de ce journaliste. Jusqu'en 1990, Jack Unterweger avait eu une vie difficile. Il était né en Allemagne d'une mère prostituée qui l'avait abandonné en bas âge. Il avait été victime d'abus sexuels, négligé, vivant d'un foyer à l'autre. À l'adolescence, Jack commença à exprimer la rage qu'il ressentait suite à son enfance tragique. À 25 ans, cette violence lui coûta une peine d'emprisonnement à vie. Unterweger poursuivit ses études au cours de sa détention et il se mit à l'écriture. Il publia des lettres, des pièces de théâtre, des nouvelles ainsi que son autobiographie. Dans cet ouvrage qui allait devenir un best-seller, Unterweger se décrivait comme une victime. Les critiques et le public avaient de l'admiration pour cet auteur si honnête qui affrontait son passé avec autant de courage. Le monde de la littérature croyait qu'il avait été sauvé par l'art. Bientôt, les médias et le public exercèrent des pressions pour que sa peine d'emprisonnement à vie soit commuée en une peine moins sévère. Le 12 mai 1990, les autorités autrichiennes révisèrent finalement sa condamnation. Cet Autrichien de 40 ans fut libéré de prison. Il était maintenant un homme libre, résolu à ne plus jamais passer un jour derrière les barreaux. Peu après sa remise en liberté, un magazine allemand l'engagea pour couvrir les meurtres des prostituées. Il promit de donner une dimension sociale à ses articles. Il déclara à son éditeur qu'il désirait donner une voix aux démunis des bas-fonds de la société, dont il avait lui-même déjà fait partie. En juillet 1991, deux autres prostituées furent trouvées étranglées. Le psychologue Tom Mueller, du service des enquêtes criminelles de l'Autriche, se joignit à l'escouade spéciale.
Quand nous avons commencé l'enquête entourant Jack Unterweger, la situation était assez délicate parce que tous ses amis œuvraient dans le monde des médias et ils ne pouvaient concevoir qu'il soit un criminel.
Même au sein de la police, seule une poignée d'enquêteurs croyaient que ce journaliste célèbre était peut-être un suspect. En examinant des reçus et des relevés de voyage, Geiger et Mueller constatèrent cependant que Unterweger s'était trouvé dans chacune des villes où les meurtres avaient eu lieu. Cela pouvait cependant s'expliquer du fait qu'il était journaliste et qu'il couvrait la nouvelle. Pourtant, comment expliquer qu'il s'y trouvait toujours avant que les meurtres aient lieu ? Unterweger était allé à Prague en septembre 1990. Juste avant le meurtre de Blanka Bokava, une Tchécoslovaque étranglée avec un bas nylon. Elle était la première victime de cette série qui s'élevait maintenant à 7.
Il était tout de même étonnant que Jack se trouve à Prague, ou dans l'ouest de l'Autriche, ou alors dans le sud, exactement au moment où l'on découvrait un cadavre en forêt.
En Autriche, une autre femme, Regina Prem, avait été portée disparue quelques mois plus tôt. Elle était présumée morte. Ses proches attendaient désespérément des nouvelles. En octobre 1991, son mari reçut un appel téléphonique troublant, d'autant plus que sa ligne téléphonique était confidentielle. Yeah. Hello? L'homme au bout du fil lui dit qu'il était le meurtrier de Regina. Il lui décrivit ses vêtements. Il déclara que Dieu lui avait donné l'ordre d'immoler Regina. Il poursuivit en disant qu'il l'avait laissée sur place en tournant son visage face contre terre, en direction des enfers. L'appel était une torture affreuse pour cet homme déjà traumatisé par la disparition de sa femme. Lorsque les policiers recueillirent son corps, ils purent confirmer que Regina Prem était bien la 8e victime du tueur en série. Cette découverte ne les rapprochait malheureusement pas davantage du meurtrier. Vienne, le 22 octobre 1991. Les autorités autrichiennes interrogèrent Unterweger pour la première fois. Ils n'avaient aucune preuve de sa culpabilité, mais ils espéraient obtenir ses aveux. Il reconnut avoir interrogé des prostituées dans le cadre de son travail et d'avoir payé pour des services sexuels, mais il nia connaître les victimes. Bien que ses alibis ne fussent pas solides, les enquêteurs n'avaient d'autre choix que de le remettre en liberté. Les preuves accumulées contre lui étaient indirectes et le public l'appuyait. Mueller et Geiger étaient quant à eux persuadés de la culpabilité d'Unterweger et ils continuèrent à fouiller son passé. Ils retracèrent la voiture qu'il conduisait à sa sortie de prison. Comme il l'avait vendu un an plus tôt, les chances de trouver des indices valables étaient minces. Les experts ne trouvèrent qu'un fragment de cheveux. Même si cela serait peut-être inutile, ils envoyèrent le fragment au laboratoire de l'université de Berne pour analyse. Par bonheur, il restait assez de racines du cheveu pour en extraire l'ADN. On compara ensuite ce code génétique à celui des victimes. L'ADN de l'échantillon correspondait à la première victime de Prague, Blanka Bokava, tuée en septembre 1990. Les enquêteurs avaient enfin un indice solide. Mais cela ne prouvait qu'une chose. Que la victime s'était déjà trouvée à bord de la voiture au moment où elle appartenait à Jack. Les experts devaient trouver des preuves plus incriminantes. De retour au poste de police, Geiger questionna des prostituées autrichiennes. Elles reconnurent qu'Unterweger était un client régulier et qu'il exigeait d'elles qu'elles soient menottées au cours de la relation. De façon plus significative, l'une d'entre elles se rappelait l'avoir aperçue s'approcher de l'une de ses amies, Heidmarie Hammerer, la première victime découverte à Bregenz. Elle déclara qu'il portait une veste de cuir brun au cours de cette soirée. Sur la base de cette identification et du cheveu trouvé dans la voiture d'Unterweger, Geiger put obtenir le mandat de perquisition de son appartement.
Jack, Unterweger?
Unterweger n'était pas là quand la police se présenta chez lui. Les policiers réquisitionnèrent certains de ses vêtements, notamment une veste de cuir brun, pour les soumettre à des analyses. Un des détectives trouva des reçus dans une poubelle. Il provenait d'un restaurant de fruits de mer à Malibu, en Californie, et qui était daté de 9 mois plus tôt. Jack Unterweger était allé aux États-Unis. Au bout du compte, la fouille de l'appartement donna cependant des résultats plutôt décevants. Rien ne prouvait formellement l'implication d'Unterweger dans les meurtres. Les indices étaient trop minces pour permettre aux détectives d'obtenir un mandat d'arrêt. Ils durent abandonner l'enquête. Encore une fois, Jack Unterweger avait une longueur d'avance sur eux. Pour l'arrêter, Geiger devrait obtenir la participation d'enquêteurs plus expérimentés en matière de tueurs en série. Il contacta le FBI. Des enquêteurs autrichiens se rendirent à l'ambassade américaine. Ils y rencontrèrent l'attaché Julian Slisko, un agent du FBI qui travaillait à partir de Vienne. Slisko entra en contact avec le service des sciences comportementales du FBI à Quantico, en Virginie. L'agent Greg McGrary prit son appel. McGrary est maintenant à la retraite. Il a cependant passé les 10 dernières années de sa carrière à mettre sur pied le service des sciences comportementales du FBI.
Les Autrichiens nous ont contactés dans l'espoir de profiter de notre expérience relativement aux enquêtes de meurtre en série. C'était leur première enquête sur un tel cas.
McGrary accepta de venir en aide aux Autrichiens. Il les aiderait d'abord à établir si un seul individu était responsable de tous ces meurtres. Geiger révéla à Slisko qu'Hunter Wager était allé à Los Angeles l'été précédent. Cette dernière envoyait un téléx en Californie pour en informer les autorités locales. Au cours des jours suivants, Geiger et Mueller se préparèrent à leur rencontre avec les responsables du FBI. Ils prirent soin de prendre les rapports des scènes de crime, les rapports d'autopsie et les photos. Un détective de Californie, Ted Miller, se mit en contact avec eux. Son collègue Jim Harper et lui avaient travaillé pendant plusieurs mois sur une série de meurtres non résolus. Ces homicides étaient semblables aux meurtres commis en Europe et pour lesquels on soupçonnait Jack Hunter Wager.
Cela a tout de suite mis le feu aux poudres. C'était incroyable. Nous avions travaillé 8 mois sur cette enquête. Nous n'avions aucun suspect en vue. La série de meurtres s'était arrêtée. Et puis, tout à coup, l'enquête a eu ce nouvel élan.
Les enquêteurs autrichiens comparèrent leurs notes à celles de leurs homologues américains. Il y avait des ressemblances très nettes entre les cas. Les victimes étaient toutes des prostituées. On les avait étranglées avec un de leurs sous-vêtements et abandonné leur corps dans des endroits isolés. Miller et Harper reconstituèrent les allées et venues du suspect en Californie. Ils vérifièrent auprès des lignes aériennes, des entreprises de location d'auto et des hôtels. À partir des données obtenues, ils purent établir l'état des déplacements d'Hunter Wager.
Il est venu à Los Angeles en vacances au mois de juin 1991. Il est arrivé vers le 2 ou le 3 juin et est reparti le 17 juillet.
Au cours de son séjour, Hunter Wager avait même visité le quartier général de la police de Los Angeles. Il était entré dans le bureau des relations publiques et avait présenté sa carte de journaliste. Il désirait participer à un programme spécial mis sur pied par la police. Ce programme permet aux civils d'accompagner les policiers lors de leur patrouille. Comme les papiers de Jack étaient tous valides, sa requête fut acceptée.
Jack Unterweger.
Hunter Wager soutenait qu'il rédigeait un article pour un magazine allemand sur les différences entre prostitution américaine et européenne. Il désirait connaître les quartiers fréquentés par les prostituées. Les agents lui montrèrent les coins les plus chauds de Los Angeles. Le détective Jim Harper nous raconte.
Quand on visite une grande ville comme Los Angeles, on sait bien que les prostituées ne sont pas partout. Il faut savoir où les trouver, et il n'y a pas de meilleure façon pour cela que de monter à bord d'une voiture de police.
Des témoins aperçurent Shannon Exley, 20 ans, pour la dernière fois au coin de la 7e rue et de Main Street. Elle avait fait une fugue de chez ses parents à l'âge de 16 ans et se prostituait depuis. Elle mourut le 2 juin 1991. On trouva sa dépouille avec son soutien-gorge enroulé autour du cou. Des marques sur ses pieds indiquaient qu'on l'avait étranglée, puis qu'on avait traîné son corps sur une distance de 15 mètres pour l'abandonner à l'endroit où il avait été découvert. Des experts légistes découvrirent du sperme provenant de 7 individus. Malheureusement, les détectives de Los Angeles ne disposaient pas d'un suspect pour effectuer des comparaisons génétiques. 10 jours plus tard, les enquêteurs trouvèrent le corps d'une autre prostituée, Irene Rodriguez. Son cadavre était dissimulé derrière un camion à seulement 2 kilomètres de l'endroit où le corps d'Exley avait été abandonné. Comme la première victime, le tueur avait étranglé Rodriguez avec son propre soutien-gorge. De plus, la dernière fois qu'on l'avait vue, elle se trouvait également au coin de la 7e rue et de Main Street. Les policiers découvrirent qu'Hunter Wager vivait dans ce même quartier.
Il avait loué une chambre au Cecil Hotel, au 643 South Main Street, soit juste au coin de la 7e rue. C'est à cet endroit que les deux victimes ont été vues pour la dernière fois.
Une troisième victime, Sherry Long, fut trouvée morte près de Malibu moins de deux semaines plus tard. Une fois encore, Hunter Wager avait loué une chambre dans le secteur où l'on avait vu Long pour la dernière fois. Autour de son cou, son soutien-gorge était enroulé et noué très serré. Le détective Jim Harper fut frappé par cette méthode de strangulation particulière.
Je n'avais jamais rien vu de tel. Le meurtrier avait pris beaucoup de temps à passer ce soutien-gorge autour du cou de la victime et à le nouer.
L'experte Lynn Harold compara les nœuds pour voir s'ils présentaient des similitudes.
Pour faire les nœuds, le meurtrier devait défaire le soutien-gorge d'une façon particulière. Il ne faisait pas qu'un nœud plat. Il retirait d'abord l'élastique de la courroie gauche, ce qui rendait plutôt invraisemblable la possibilité que trois individus différents aient ainsi pu, au hasard, étrangler trois personnes de cette façon particulière.
Geiger et Mueller ajoutèrent à leur dossier existant les informations obtenues du service de police de Los Angeles et ils s'envolèrent vers la Virginie. Ils espéraient que les experts du FBI pourraient leur dire si un seul homme était l'auteur de ces 11 meurtres. De l'autre côté de l'Atlantique, en Autriche, Jack Hunter Wager était toujours une personnalité bien en vue. Les articles de ce journaliste vedette étaient publiés régulièrement et il faisait de nombreuses apparitions à la télévision pour parler des meurtres. Il déclara en ondes que la police autrichienne était constituée d'incapables et qu'on se servait de lui comme d'un bouc émissaire. Hunter Wager clamait à qui voulait l'entendre que les autorités étaient résolues à le remettre derrière les barreaux, quitte à inventer une preuve si nécessaire pour lui attribuer la responsabilité de ses crimes sordides. Le journaliste était populaire auprès du public en général et aussi dans les boîtes de nuit qu'il fréquentait. Ses nombreuses admiratrices lui trouvaient un certain charme. Il se moquait des policiers qui n'avaient aucune preuve contre lui et qui, par conséquent, ne pourraient jamais réussir à lui faire reprendre le chemin de la prison. En août 1992, les détectives autrichiens arrivèrent à Quantico, en Virginie. Ils venaient y rencontrer un psychologue expérimenté. Ils comptaient sur lui pour les aider à mettre la main au collet d'un tueur en série soupçonné du meurtre de 11 prostituées. Les deux détectives autrichiens avaient emporté avec eux 12 boîtes de documents. L'agent spécial Greg McGrary refusa de prendre connaissance des détails concernant le suspect principal, Jack Hunter Wager. Il voulait éviter de se faire une idée préconçue qui viendrait biaiser son analyse. McGrary désirait plutôt centrer son attention sur les victimes.
Je voulais examiner les dossiers de tous les homicides, la description des victimes, leurs antécédents, leur histoire, la méthode utilisée pour les tuer, les rapports d'autopsie, les photos des scènes de crime. Bref, tout ce qui était disponible du point de vue de l'investigation. Je ne voulais pas qu'on me donne d'informations à propos du suspect. Nous devions nous faire une idée objective de ces cas pour déterminer s'ils étaient reliés entre eux et quel était le type de criminel impliqué dans ces meurtres.
Au départ, il fallait éviter de présupposer que les crimes étaient reliés entre eux. McGrary les compara et examina les similitudes. Il s'assura qu'ils présentaient suffisamment de caractéristiques particulières avant de conclure qu'ils avaient été commis par un seul individu. Il se mit ensuite à la recherche d'une sorte d'empreinte comportementale, une signature que l'on retrouverait dans tous les meurtres.
Pour trouver la signature d'un meurtre, on commence par en évaluer les aspects comportementaux. Parfois, c'est un événement unique. Mais le plus souvent, on retrouve la même série de comportements d'un crime à un autre. C'est en nous basant sur les agissements du criminel qu'on peut ensuite dresser des liens entre les cas.
McGrary examina les séries de comportements. Il examina tous les détails de la vie des 11 femmes. Sauf la première victime à Prague, elles étaient toutes des prostituées à temps plein. Une amie de Blanka Bokava l'avait vue pour la dernière fois le 14 septembre 1990, au moment où elle quittait un bar de Prague. Bokava était vendeuse dans une boucherie. Il lui arrivait cependant à l'occasion d'avoir des relations sexuelles contre de l'argent. Son corps avait été abandonné au bord de la rivière Vladva dans un boisé près de chez elle. Le meurtrier l'avait étranglé à l'aide de ses bas nylons. Il l'avait laissé nu et caché son corps sous des branchailles. Il avait jeté ses vêtements et ses papiers d'identité dans la rivière. Heidemarie Hammerer, la première victime trouvée par les autorités autrichiennes, se prostituait officiellement depuis 10 ans. À ses débuts, elle avait eu des clients violents. Elle était devenue plus prudente ensuite. On l'avait vue pour la dernière fois le 5 décembre 1990, à côté de l'entrée d'un stationnement intérieur. Comme les 5 autres victimes, on retrouva le corps de Hammerer en forêt près d'un cours d'eau. Toutes ces femmes avaient des blessures aux poignets et aux bras. On n'avait cependant pas trouvé de traces de sperme sur les victimes européennes. Pour l'expert, cela pouvait signifier que le meurtrier était impuissant et qu'il manquait d'assurance relativement à sa virilité. Comme il ne parvenait pas à avoir une véritable relation sexuelle avec ses partenaires, en dépit du fait qu'il avait été stimulé sexuellement, il devenait enragé et il étranglait ses femmes qu'il accusait de l'avoir humilié. Il abandonnait ensuite leurs cadavres dans des positions dégradantes. L'équipe d'experts se tourna ensuite vers les victimes de Los Angeles. Ces cas ressemblaient-ils à ceux d'Europe? Shannon Exclay avait été trouvée face contre terre dans un terrain gazonné près d'une sortie de l'autoroute. Elle ne portait qu'un t-shirt et une paire de chaussettes. On avait traîné son corps sur une distance de 15 mètres, soit de la chaussée à l'endroit où son corps avait été trouvé. Elle avait été étranglée avec son soutien-gorge. Tout comme les autres meurtres commis à Los Angeles, ce crime démontrait que le meurtrier avait certaines préférences et que la violence en elle-même était devenue pour lui une sorte de stimulation sexuelle.
Nous avons vite constaté que le mode d'opération était le même pour tous ces homicides, que c'était devenu comme un rituel. Les femmes avaient des modes de vie similaires, en ce sens qu'elles étaient prostituées ou échangeaient des faveurs sexuelles contre de l'argent. Quand le meurtrier entrait en contact avec elles, elles étaient dans la rue. Il les attirait sournoisement. Personne ne les avait vues monter à bord de sa voiture. Il les conduisait ensuite dans un secteur isolé. Il les tuait en les étranglant avec un de leurs vêtements. Ensuite, il abandonnait leur corps dans la nature sans avoir eu de relation sexuelle avec elle.
Une semaine de travail suffit à McGreary pour qu'il soit convaincu qu'un seul individu avait commis ces meurtres. L'agent du FBI et les détectives autrichiens passèrent la semaine suivante à dresser le portrait de l'assaillant. Il se déplaçait facilement. C'était un homme d'âge mûr, intelligent, sophistiqué et méthodique. Pour le psychologue judiciaire Tom Mueller, Jack Unterweger correspondait en tout point à ce portrait.
Je dirais que Jack était un très bon exemple du meurtrier méthodique. Je dirais même que c'était l'exemple typique pour un psychologue. Il comprenait les besoins des autres. Il pouvait facilement s'approcher des gens, les écouter et ensuite les manipuler.
Mais comment un même individu avait-il pu commettre des meurtres sur deux continents? Il y avait des victimes en Tchécoslovaquie, en Autriche et aux États-Unis. Sauf exception, les tueurs en Syrie restent généralement dans la même région et ils choisissent leurs victimes dans une zone qui leur est familière. Un détail permettait toutefois de croire que le meurtrier s'était peut-être déplacé. Le psychologue compara les dates des allées et venues d'Unterweger à la chronologie des meurtres.
J'ai superposé les dates des déplacements de Jack Unterweger à celles des meurtres. Et j'ai constaté que tout correspondait parfaitement. Ça a été un moment très satisfaisant. Je disposais d'un suspect dont les allées et venues correspondaient parfaitement avec chacun des homicides, et qui en plus avait déjà commis un premier meurtre pour lequel il avait été condamné, et qui ressemblait étrangement à ces homicides-ci. On pouvait prouver sa présence dans un lieu chaque fois qu'un crime avait été commis. Jack Unterweger était soit l'homme le plus malchanceux du monde de s'être ainsi trouvé à ces endroits, soit le meilleur suspect possible.
En Autriche, Unterweger continuait de profiter de sa notoriété et de sa liberté. De nombreuses femmes le trouvaient attirant, en dépit du fait que cet ex-prisonnier était soupçonné de meurtre. Cette fascination du public intriguait le détective Fred Miller.
Jack Unterweger pouvait à la fois avoir une relation normale avec une femme et être un monstre de cruauté capable de tuer d'autres femmes.
L'étudiante Bianca Mrak fut parmi les femmes à tomber sous le charme d'Unterweger. Cette jeune serveuse de 18 ans travaillait au bar qu'il fréquentait. Elle fut flattée de l'attention que lui portait le célèbre écrivain. Il lui confia qu'il était las de toute cette publicité en Autriche et qu'il songeait quitter le pays, peut-être pour s'installer en Suisse. Elle accepta de le suivre, peu importe où il irait. Pendant ce temps, les techniciens du laboratoire terminèrent l'analyse des fibres des vêtements confisqués dans l'appartement d'Unterweger quelques semaines plus tôt. Ils obtinrent des résultats positifs. Les fibres de la doublure de la veste de cuir brun étaient identiques à celles recueillies sur le corps de Heide Marie Hammerer. C'était le premier lien concret entre le suspect et l'une des victimes. Les enquêteurs espéraient maintenant trouver des liens avec chacune des autres victimes. Le FBI disposait d'un nouvel outil qui pouvait donner des résultats concluants. Il s'agissait d'un logiciel contenant les données de 10 000 meurtres résolus et non résolus aux États-Unis. Un programmeur introduisit les données de tous les cas d'Europe et de Los Angeles. Ces détails incluaient la façon dont les victimes avaient été tuées, l'endroit de leur disparition et celui où l'on avait retrouvé leur corps. En tenant compte de 15 critères différents, le programmeur commanda à l'ordinateur d'établir un lien entre les meurtres. Quarante-huit heures plus tard, il convoqua les détectives. Les résultats étaient concluants. L'ordinateur avait statistiquement relié les 11 meurtres. Cela signifiait que Jack Unterweger était l'auteur de tous ces meurtres. Grâce à ces ressources, le FBI fournissait des preuves très convaincantes aux Autrichiens pour consolider leur enquête sur Unterweger. Ce dernier était cependant toujours introuvable. Les détectives autrichiens rentrèrent dans leur pays. Munis du profil du FBI, ils obtinrent le mandat d'arrestation de Johann Jack Unterweger. On dépêcha de nouveau des policiers chez le journaliste. Jack avait laissé son appartement. Geiger téléphona à son bureau et il ordonna à l'équipe en fonction de faire surveiller toutes les voies de sortie d'Autriche. En l'espace de quelques heures, toutes les gares et tous les aéroports furent fouillés. Il n'y avait aucune trace d'Unterweger. Le tueur en série avait disparu. Il était parti avec la jeune Bianca Mrak. Les autorités autrichiennes ne pouvaient plus l'atteindre.
Jack Unterweger est un bon exemple d'un psychopathe intelligent. Il est devenu un auteur à succès de romans et de pièces de théâtre. Mais les psychopathes sont très manipulateurs. Ils sont extrêmement habiles pour berner les autres.
Hello? Hello? Yeah.
De passage à Paris, Jack téléphona lors de la diffusion d'une émission de télévision pour clamer son innocence. Il déclara que sa fuite n'était pas un aveu de culpabilité, mais plutôt une tentative de fuir le complot de la police visant à le faire emprisonner. Il promit de retourner en Autriche et de répondre à toutes les questions qu'on lui poserait, à condition que le mandat d'arrestation soit retiré. Malgré cet appel, les policiers autrichiens n'avaient pas la moindre idée de l'endroit où il se tairait. À Vienne, les enquêteurs interrogèrent ses amis. Ces derniers apprirent, imperturbables, qu'il avait été accusé de nombreux meurtres. Ils dirent que Jack était parti quelques jours en Amérique avec une certaine Bianca Mrak, une ancienne serveuse du bar qu'il fréquentait. Bianca vivait, semble-t-il, avec sa mère. Geiger rendit donc visite à Madame Mrak. Elle reconnut qu'elle avait parlé au couple de fugitifs et qu'elle leur avait envoyé de l'argent sous forme de transfert bancaire. Il se trouvait à New York et s'apprêtait à se rendre en Floride. Geiger demanda à Madame Mrak de l'appeler dès qu'elle parlerait à sa fille. Elle accepta. Quelques jours plus tard, elle reçut un appel de sa fille à Miami. Ils avaient encore besoin d'argent. Madame Rack informa immédiatement la police autrichienne. Des officiers de la police fédérale américaine attendaient l'arrivée du couple à la banque Western Union. Ils identifièrent le couple qui arrivait en voiture. Hunter Weiger fut arrêté rapidement. Il fut mis en détention à Miami en attente de son extradition. Il faisait face à des accusations de meurtre en Autriche et en Californie. Le détective Fred Miller de Los Angeles s'entretint de l'affaire avec ses homologues autrichiens.
Après l'arrestation de Jack à Miami, nous étions en contact quotidien avec les autorités autrichiennes. Nous tentions de réunir les informations dont ils disposaient et les nôtres relatives au meurtre de Californie. Des membres de la police autrichienne sont venus à quelques reprises à Los Angeles. Ils nous ont fourni le matériel dont nous avions besoin, photos des scènes de crime et informations à propos des victimes et de Jack.
Les autorités autrichiennes désiraient faire comparaître Hunter Weiger pour les 11 meurtres. Mais ils savaient que cela risquait d'être difficile. Pour le public autrichien, Jack était une célébrité. Il fallait changer cette image et démontrer qu'en réalité, le suspect était un homme cruel et sombre.
Ce qui est intéressant avec Jack, si l'on examine des photos prises à divers moments de sa vie, c'est que très souvent il est bien habillé et porte même un nœud papillon. Il a un visage jeune, presque innocent. Mais si on le voit sans sa chemise et qu'on regarde ses tatouages diaboliques qui sont typiques de la plupart des prisonniers violents, on perçoit la dichotomie entre l'apparence extérieure de Jack et sa psychopathologie secrète.
Les détectives du service de police de Los Angeles obtinrent un mandat les autorisant à recueillir des échantillons de tissu humain de leurs prisonniers. À Miami, une technicienne fit une prise de sang à Hunter Weiger. Elle prit aussi un échantillon de ses cheveux et de sa salive en vue de trouver son code génétique. Ces échantillons furent ensuite envoyés à Los Angeles pour analyse. L'ADN du suspect était identique au sperme trouvé sur Shannon Exclay. Cependant, il y avait des traces de sperme de 6 autres hommes sur le corps de la victime et on n'avait trouvé aucune trace de fluide séminal sur les 2 autres prostituées américaines. Jack Hunter Weiger était inquiet car il risquait d'être envoyé en Californie où la peine de mort est légale. Il ne voulait pas mourir dans une chambre à gaz. S'il retournait en Autriche, toutefois, il serait accusé des 11 meurtres. Le psychologue judiciaire Tom Mueller nous explique.
Lorsqu'un citoyen autrichien commet un crime, peu importe où il se trouve dans le monde, il continue à relever de la justice autrichienne. Les autorités américaines ont donc accepté de renvoyer Unterweger dans son pays.
En retournant dans son pays natal, ce dernier dut faire face à 11 chefs d'accusation d'homicide, dont ceux de 7 femmes qui avaient été tuées en Autriche. Ces accusations ne diminuèrent en rien l'appui des médias envers le journaliste. Au cours de sa détention avant le procès, Jack continua de clamer que les policiers avaient tramé un complot contre lui. Au bulletin de nouvelles, on parlait abondamment de son cas. C'est dans cette atmosphère survoltée que les procureurs d'Autriche se préparèrent au procès. Pour gagner cette cause, ils devaient disposer d'un dossier à toute épreuve. Le détective Jim Harper de Los Angeles se rendit à Vienne pour témoigner au procès.
Le seul procès auquel on peut le comparer est celui d'O.J. Simpson à Los Angeles. C'était très médiatisé. On en parlait dans tous les journaux. Cela faisait la manchette. Quand nous sommes arrivés à Vienne pour témoigner, nous avons remarqué que nous faisions nous-mêmes la une des journaux.
Le procès fut présidé par 3 juges. La poursuite disposait de peu d'indices. On comptait principalement sur le profil comportemental dressé par l'expert McGrary.
Il était crucial de démontrer le lien entre tous ces crimes d'un point de vue comportemental. C'était la seule façon de prouver la culpabilité de Jack. C'est donc devenu l'aspect le plus critique de son accusation.
Par son témoignage, l'expert McGrary démontra finalement qu'il y avait un lien entre toutes les victimes. La piste de cadavres laissée par Jack Unterweger se poursuivait outre-Atlantique. Là où il se trouvait, des femmes étaient assassinées. Lors de son séjour à Los Angeles, 3 prostituées avaient été trouvées mortes. Et les meurtres ressemblaient de façon troublante à ceux d'Europe. Shannon Exclay et 2 autres prostituées américaines avaient été étranglées à mort. Leur assaillant s'était servi de leur soutien-gorge pour les étrangler. Les nœuds étaient identiques à ceux des bas nylons en Europe. Pour McGrary, la probabilité que 2 individus différents aient commis ces meurtres était négligeable.
Quelles étaient les chances qu'un autre meurtrier choisisse non seulement d'étrangler ses victimes avec un de ses sous-vêtements, mais qu'il fasse exactement les nœuds de la même façon? Il est très peu probable que 2 criminels puissent commettre des crimes aussi ressemblants.
L'avocat de l'accusé plaida qu'il y avait bien une différence puisque les victimes de Los Angeles avaient été étranglées à l'aide de leur soutien-gorge et celles d'Europe avec leur bas nylon. McGrary répondit alors que les prostituées européennes ne portent habituellement pas de soutien-gorge. Ce qui importait pour le meurtrier, c'était d'utiliser la lingerie intime de sa victime. On fit ensuite comparaître l'experte Lynn Harold à la barre. On lui demanda de comparer les nœuds des bas nylons à ceux des soutiens-gorge.
Pour ce qui est des bas nylons, il se servait d'abord d'une des 2 jambes. Il repliait la seconde sur elle-même pour former une boucle en épingle à cheveux, de manière à pouvoir disposer d'une 3e bande de tissu pour faire une tresse. Cette façon de faire était semblable à celle des soutiens-gorge, au moins dans un des cas. Il se servait des 2 bandes élastiques et de la bretelle gauche comme 3e bande de tissu pour faire la tresse.
Le procès prit fin au bout de 2 mois et demi. Le 28 juin 1994, le jury de grâce trouva Johann Jack Unterweger coupable de 9 des 11 meurtres. Les 2 autres victimes étaient dans un état de décomposition trop avancé pour qu'on puisse s'en servir comme élément de preuve. Ce verdict signifiait qu'Unterweger passerait le restant de ses jours en prison, même s'il s'était déjà juré de ne plus jamais être un seul jour derrière les barreaux. Il a toutefois fini par avoir le dernier mot. Il s'est étranglé avec un ruban de nylon prélevé à même son uniforme.
On associe généralement le suicide à une période dépressive ou au fait que quelqu'un éprouve de la honte ou de la culpabilité. ou même une sorte de remords. Ce n'était pas du tout le cas de Jack Unterweger. Les psychopathes de sa trempe aiment avoir le contrôle. C'était comme une sorte de défi, une façon de reprendre le contrôle à l'État ou aux autorités. Il n'entendait pas qu'on le contraigne à passer le reste de ses jours en prison.
Le cas Jack Unterweger démontre que les tueurs en série ne sont pas issus d'un phénomène exclusif à l'Amérique du Nord. Les responsables de nombreux services de police européens ont compris que pour lutter contre ce type de criminels, ils doivent s'inspirer du modèle du FBI.
En Autriche et même ailleurs en Europe, nous ne disposions pas d'un programme dédié à l'arrestation des tueurs en série. Notre service de psychologie judiciaire tente d'implanter un système similaire ici. Nous pourrons ensuite comparer tous les crimes sexuels et les cas d'homicide de cette nature.
Maintenant, grâce au travail de pionniers du FBI, de nombreux pays ont adopté une base de données informatisée qui permet de dresser des profils comportementaux. On espère ainsi qu'en dépit de l'ouverture des frontières, les prédateurs ne pourront plus échapper à la justice.